VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui. Nous sommes le mardi 13 octobre 2015, en direct de Washington. Anastasie Tudiech et Anne Albertson. Tout de suite, les titres.
L'opposition guinéenne juge les résultats du vote du 11 octobre nuls et non avenus.
Des Burundais en appellent à la communauté internationale et manifestent devant la Maison Blanche.
Le Conseil de l'Europe s'oppose aux tirs russes en Syrie.
Le Soudan révèle que 70 de ses ressortissants ont rejoint le groupe État islamique.
Campagne électorale aux États-Unis, ce sera ce soir le premier débat entre les candidats démocrates.
À venir aussi nos pages économie et sport, mais tout de suite, c'est le journal. Les 7 adversaires du chef de l'État guinéen sortant Alpha Condé à la présidentielle ont réclamé hier lundi l'annulation du premier tour qui s'est tenu dimanche 11 octobre sans attendre les résultats, assimilant les multiples problèmes d'organisation à une, je cite, fraude massive. Monsieur Diallo, Seydou d'Alain Diallo, chef de l'opposition guinéenne, lors d'une conférence de presse conjointe avec les 6 autres concurrents d'Alpha Condé, a demandé l'annulation du vote dont aucun d'eux ne reconnaîtrait les résultats et a annoncé son intention de mobiliser ses partisans pour une manifestation.
Au Rwanda, la Chambre des députés a commencé lundi l'examen du projet de réforme de la Constitution, destiné notamment à permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Ce dernier a affirmé qu'il ne briguerait un troisième mandat que s'il était plébiscité par son peuple. Tous les députés ayant pris la parole ont exprimé leur soutien au président Kagame. Et quelques 3,7 millions de Rwandais ont signé les pétitions lancées à travers le pays pour demander un maintien au pouvoir de M. Kagame, âgé de 57 ans. De nombreux observateurs y voient une manœuvre dans un pays régulièrement épinglé pour ses atteintes à la liberté d'expression et son peu d'ouverture politique. Pour être adoptée, la constitution révisée doit recueillir les 3/4 des votes dans chacune des 2 chambres du Parlement, toutes 2 très largement dominées par le FPR, le parti de M. Kagame et ses alliés. Elle devrait ensuite être soumise à un référendum.
La vie des Burundais avant tout, c'est ce que l'on pouvait lire hier lundi sur les panneaux brandis par des Burundais rassemblés devant la Maison Blanche à Washington DC. Le but des manifestants, en appeler à la communauté internationale face aux tueries et violations des droits de l'homme en cours au Burundi. Chacun était vêtu de noir, couleur du deuil dans la culture burundaise, avec une croix noire dessinée sur la joue, symbolisant la souffrance. Eric Manirakiza a joint Karine Kaneza, leader de la manifestation et membre du mouvement international des femmes pour la paix et la sécurité.
On a décidé de nous joindre à la souffrance de nos frères et sœurs au Burundi. Nous demandons que la communauté internationale, que les Nations Unies, que les gouvernements aillent au-delà d'une simple condamnation de ce qui se passe. Nos frères et sœurs sont torturés, sont tués silencieusement. Au moment où je vous parle, quelqu'un est en train de porter un deuil, quelqu'un vient de perdre un père, une mère, une sœur, un frère. Nous demandons que la responsabilité de protection soit mise en application sur le Burundi. Nous voulons une force d'intervention pour protéger les citoyens burundais. Nous demandons qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait plus de pression pour qu'il y ait des pourparlers de paix entre le gouvernement du Burundi et l'opposition, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit. Qu'il y ait des pourparlers sans précondition. Et puis finalement, nous demandons qu'il y ait une commission d'investigation internationale sur les crimes qui sont en train d'être commis contre le peuple burundais.
Un nouveau gouvernement a été formé en Guinée-Bissau après plusieurs semaines de blocage politique suite au limogeage du Premier ministre Domingos Simões Pereira par le président José Mário Vaz. Les nouveaux ministres sont majoritairement issus de l'équipe dissoute en août et membres de la formation du président Vaz, le PAIGC, parti majoritaire au Parlement. Le PRS, deuxième parti du pays, a pour sa part refusé de participer à la nouvelle équipe. 2 ministères clés ont été confiés à des femmes, Madame Adiato Diallo Nandinha s'est vu confier la défense et Madame Aïda Injai Fernandes, le ministère de la Justice.
Nouveau revers pour les négociations sur la crise libyenne. Le Parlement, basé à Tripoli, a rejeté la proposition faite par l'émissaire de l'ONU en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Chérubin Dorcil nous en dit plus.
Depuis jeudi dernier, les signes venant de Tripoli n'inspiraient pas confiance.
After consultations
À Sakhirat, au Maroc, où se déroule la négociation entre les parties libyennes sous les auspices des Nations Unies, l'émissaire Bernardino León se montrait à la fois déçu et optimiste. Le Congrès général national basé à Tripoli n'avait pas répondu à sa proposition de la façon espérée. Le lendemain pourtant, il allait annoncer un consensus sur le nom d'un premier ministre, Fayez El-Sarraj, actuel membre du Parlement de Tripoli, et de 17 ministres d'un gouvernement d'union nationale. Hier, le rejet était plus catégorique. Ce gouvernement est rejeté car il approfondirait les divisions entre les Libyens, a déclaré à l'AFP Mahmoud Abdelaziz, membre du CGN. Ainsi, plusieurs mois de pourparlers et de compromis, parfois difficiles, aboutissent encore une fois à une impasse. L'autre parlement libyen, celui qui est basé à Tobrouk, dans l'est du pays, et qui est reconnu par la communauté internationale, a décidé de prolonger à ce mardi ses discussions sur la proposition de l'émissaire onusien. Mais de ce côté également, les signaux sont peu prometteurs. Un membre de cette entité, Ali Tekbali, a suggéré que Tobrouk pourrait aussi rejeter la proposition de M. León en dépit des appels de la communauté internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de l'Europe a appelé lundi la Russie à cesser immédiatement ses attaques en Syrie, car, estime-t-il, elle ne viserait pas le groupe État islamique ou d'autres formations figurant sur la liste onusienne de groupes terroristes. Les précisions d'Eddy Isango.
La Russie a cité parmi les dernières cibles de son armée en Syrie un camp d'entraînement du groupe État islamique dans la province d'Idlib et des installations souterraines du même groupe dans la province de Latakia. Pour leur part, les États-Unis, qui mènent des raids séparés contre les combattants du groupe État islamique, accusent l'armée russe de viser, dans certains camps, des groupes luttant avec les soutiens américains contre le régime du président syrien Bachar al-Assad. L'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan Mistura, qui tente d'amener les factions syriennes à la table des négociations, a dit qu'il aura des entretiens aujourd'hui mardi à Moscou avant de venir ici à Washington. Hier lundi, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a fait état des progrès dans la voie d'une collaboration avec Washington en Syrie. S'exprimant dimanche sur la chaîne de télévision CBS, le président Barack Obama a pour sa part affirmé que l'intervention russe en Syrie vise à sauver les gouvernements de Bachar al-Assad.
70 jeunes Soudanais se sont rendus en Syrie et en Libye pour rejoindre les rangs du groupe État islamique, a affirmé lundi le ministre soudanais de l'Intérieur, Ismat Abdel Rahman. Écoutons les précisions de Michel Joseph.
C'est la première fois que les autorités soudanaises avancent un chiffre précis concernant ces jeunes attirés par le groupe djihadiste. Plusieurs étudiants du Soudan, certains détenteurs de passeports occidentaux, se sont rendus en Syrie via la Turquie pour combattre avec l'EI, selon des médias. Le ministre soudanais de l'Intérieur, Ismat Abdel Rahman, que cite l'AFP, a fait savoir que son pays, en coordination avec le gouvernement turc, avait réussi à empêcher plusieurs personnes de rejoindre l'organisation djihadiste opérant en Irak, en Syrie et en Libye. Selon lui, les services de sécurité et de l'éducation ont lancé une campagne de sensibilisation pour empêcher les jeunes Soudanais d'aller combattre avec le groupe djihadiste. En juin, 12 étudiants, dont des Britanniques et des Canadiens, auraient quitté l'Université de sciences médicales et de technologie à Khartoum pour la Turquie afin de rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Un autre groupe de 9 étudiants britanniques d'origine soudanaise inscrits à la même université aurait fait de même.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de vaincre le terrorisme après la multiplication des attaques palestiniennes au couteau, dont 4 ont encore été menées lundi à Jérusalem, portant à 19 le nombre d'agressions à l'arme blanche depuis le 3 octobre. Les agressions au couteau sont commises pour la quasi-totalité par des Palestiniens sans coordination apparente et ont fait 2 morts israéliens et plus d'une vingtaine de blessés. 10 agresseurs présumés ont été abattus au total. Les agressions mutuelles sont permanentes entre Palestiniens et colons. Une tension qui a gagné la communauté des Arabes israéliens, qui compose 17,5% de la population. La communauté arabe israélienne est appelée à une grève générale aujourd'hui. Descendants des Palestiniens restés sur le territoire israélien après 1948, ils sont citoyens israéliens et largement solidaires des Palestiniens des territoires.
Les démocrates à Las Vegas. Aujourd'hui, Hillary Clinton retrouve ses quatre rivaux, parmi lesquels le sénateur du Vermont Bernie Sanders, pour le premier d'une série de débats qui départageront les candidats démocrates à l'approche de la présidentielle de 2016. Les trois autres candidats, Martin O'Malley, Lincoln Chafee et Jim Webb, peu connus du public, devront se faire un nom. Le candidat républicain Donald Trump a ironisé sur un rendez-vous qu'il prédit soporifique. Hillary Clinton, 67 ans, devra convaincre qu'elle reste la candidate la plus crédible pour offrir aux démocrates un troisième mandat de suite à la Maison-Blanche, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, l'orchestra Buena Vista Social Club deviendra jeudi le premier groupe cubain à se produire à la Maison-Blanche depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est un symbole de plus du rapprochement en cours entre la Havane et Washington. Le groupe qui réunissait à l'origine d'anciennes gloires de l'âge d'or de la musique cubaine et a évolué au fil de disparitions successives. Il se produira à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur de la communauté hispanique organisée par le président Barack Obama.
Place à la Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Chine se taille la part du lion dans les investissements directs étrangers au Cameroun. Selon l'agence APA, quelque 2750 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers ont été enregistrés par le Cameroun au cours des 15 dernières années, dont près de deux tiers proviennent de la Chine. Les autres investisseurs principaux sont la France, les États-Unis, le Japon, la Corée et le Nigeria. En 2015, les investissements chinois au Cameroun ont encore augmenté avec un projet de 75 milliards de francs CFA pour l'interconnexion des universités d'État du pays et la construction d'un chemin de fer de plus de 500 km reliant le port de Kribi au gisement de fer de Mbalam à l'est du pays. La mairie de Paris a dévoilé hier un plan d'accueil des réfugiés de plusieurs millions d'euros. Ce plan veut améliorer la protection des personnes vulnérables, notamment des réfugiés adolescents et des femmes avec enfants, mais l'adjointe à la mairie de Paris en charge de la solidarité ne veut pas oublier les sans-domicile de la capitale française. Dominique Versini.
Nous devons traiter toutes les situations. Enfin, un public ne peut pas l'emporter sur l'autre. Bien sûr, les réfugiés sont une priorité de l'État et de Paris, mais les sans-domicile le sont aussi. C'est pourquoi nous veillons beaucoup à ce que, à l'approche de l'hiver, il y ait autant de places que nécessaire pour les sans-domicile et pour les réfugiés.
Au Bénin, le Premier ministre Lionel Zinsou a dévoilé un programme accéléré d'amélioration des infrastructures en matière d'électricité. Dans une interview publiée dans le magazine Énergie africaine, le Premier ministre a détaillé ses ambitions. En 6 mois, toutes les familles vont être équipées d'un kit solaire, une première sur le continent. Et une centaine de mini-centrales électriques devraient également être installées.
Tout de suite le sport avec vous, Eric Manirakiza. Football d'abord, l'arrivée de Issa Hayatou au siège de la FIFA repoussée à mercredi.
Justement, la Fédération internationale l'a déclaré aujourd'hui et Issa Hayatou est en tournée en Afrique au micro de notre correspondant à Yaoundé. C'est comme cela qu'on prononce Yaoundé, pas à Yaoundé. Moki Edwin Kinzeka, le président par intérim de la FIFA, défend son intégrité.
S'il y avait de corruption, ils n'allaient même pas me confier la FIFA maintenant. Ils inventent des choses. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose au niveau de la FIFA, les premières personnes qu'on indexe, c'est d'abord les Africains. Et quand la FIFA a initié des enquêtes avec les procureurs américains, là, les Garcia et tout, aucun Africain n'a été cité dans cette malversation qu'on veut nous coller volontairement. Mais pour juste salir ce petit Africain qui est maintenant à la tête de la FIFA, on va dire « Ah non, il a pris, il a fait ceci, il a fait cela ». C'est faux, je suis tranquille, je n'ai aucun problème de ce côté.
Pelé reconnaît les difficultés de la Seleção.
Oui, le triple champion du monde a avoué l'impuissance de la Seleção.
Je suis vraiment déçu, on a perdu 2-0 face au Chili.
Ah oui, cette sélection a débuté de manière désastreuse. Sa campagne de qualification, vous venez de le dire, 2-0 contre le Chili et sa première face à cette équipe depuis 15 ans, jeudi dernier à Santiago. Mais le roi Pelé croit qu'individuellement, le Brésil avait toujours les meilleurs joueurs du monde. Et il a dénoncé ce qu'on appelle les agents, que les joueurs appartiennent aux agents.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous. Tout de suite, nos dossiers du jour. En Guinée, les médias audiovisuels privés diffusent en continu les résultats des bureaux de vote. Plus de 40 radios ont synchronisé la couverture du scrutin du 11 octobre. À Conakry, Zakaria Camara.
45 radios privées, membres de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée et plus de 100 reporters pour couvrir le scrutin du 11 octobre sur un réseau synchronisé. La Guinée en a l'habitude grâce à l'appui de Chef Common Ground. Pour Aboubakar Dansoko, chef de projet, la synergie des radios va permettre une meilleure gestion des informations.
La synergie avec les radios, c'est pour toucher un maximum de public et essayer de contribuer à l'esprit de transparence qui doit caractériser les élections.
FM 2015, c'est le nom du programme qui est diffusé sur toutes les radios privées, informer les électeurs et faire agir la Commission électorale nationale indépendante. Tel est l'objectif de cette radio, selon Azoko Kaba, son directeur des programmes.
En premier lieu, la mise en réseau des médias pour avoir un seul programme cohérent et consistant à diffuser à l'endroit du public, et nous touchons toutes les parties qui sont concernées par le processus électoral, que ce soit les observateurs, les partis politiques qui ont des candidats, mais aussi les simples citoyens qui votent.
Après la fermeture des bureaux de vote, FM 2015 a diffusé quelques résultats, mais ces résultats, précise le coordinateur, sont partiels. Talibé Bari.
Une fois affichés devant les bureaux de vote, les journalistes ont la latitude donc de communiquer à travers notre antenne les résultats affichés devant les bureaux de vote.
Les résultats provisoires seront publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans quelques jours, et dans 8 jours, la Cour constitutionnelle devra publier les résultats définitifs. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Et pendant ce temps à Washington, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est au cœur d'un scandale. Mamadi Kondé, ambassadeur de Guinée à Washington, demande des comptes à la CENI qu'il accuse d'avoir délibérément fait perdre les données de base de ses concitoyens vivant aux États-Unis. Il s'exprime au micro de Georges Léonard Sagnot.
Certainement, la CENI va voir l'impact que cette décision a sur le vote et évaluer conséquemment. C'est un devoir sacré, c'est vrai, de s'acquitter de son vote. Dans notre cas particulier, les États-Unis, parce que nos données ont été égarées entre New York et la CENI. Ça, c'est pas nous, c'est des faits anodins. Et aujourd'hui, nous en sommes victimes.
Et jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle de ces données égarées. Est-ce que des responsabilités ont été situées? Qui est responsable de ça?
Il appartient à la CENI de procéder à une enquête sérieuse pour situer les responsabilités. Ils ont délégué leurs représentants de New York pour venir prendre les ordinateurs et les clés contenant les données de Washington. Ces clés ont été regroupées à New York plus les 3 ordinateurs. New York avait 2 ordinateurs plus 4 clés. Nous, on avait 3 ordinateurs plus 6 clés, ce qui fait 10 clés. Mais il n'y a que 5 clés, semble-t-il, qui sont arrivées à la CENI. Où sont passées les autres 5 clés? Donc, cette enquête, c'est à la CENI de déclencher et situer les responsabilités. Ils ont délégué quelqu'un avec ordre de mission pour venir prendre les données ici. D'ailleurs, j'avais même fait opposition en disant que pourquoi Washington doit transmettre ces données à New York. New York dépend de Washington. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une ambassade là-bas, ça c'est une dérogation. Mais la dérogation consulaire ne doit pas amener la CENI à considérer New York comme le point de départ. Non, c'est une erreur. C'est Washington qui est le point de départ. Or, c'est l'inverse qui se produit. J'ai dit jamais, je ne suis pas prêt à transmettre mes données à travers New York. Ils ont dit non, il y a quelqu'un qui vient avec ordre de mission. Veuillez lui remettre les données. Et c'est ce qu'on a fait. On a exécuté. Depuis lors, on a perdu les traces de nos clés. Parce qu'ils se sont égarés entre New York et la CENI. Il y a une main invisible certainement qui a manipulé. Et comment et pourquoi? C'est pourquoi j'ai exigé que la CENI fasse une enquête là-dessus. Parce que c'est nous qui en sommes victimes, ce sont mes citoyens qui sont victimes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu voter.
Et au jour d'aujourd'hui, aucune information, une personne n'a pas été interpellée?
Non, à ma connaissance, non.
Identifiée?
Non, à ma connaissance, non. Nous attendons de savoir plus après les élections. Certainement, ils vont repasser en revue l'ensemble des questions. Parce que, honnêtement parlant, c'est inadmissible. Tout le club notre a travaillé sur ce recensement. Les gens s'étaient dûment recensés. Et ce sont eux qui ont décidé de transmettre les données à New York, pas l'ambassade. Ce sont eux, c'est la CENI qui a envoyé quelqu'un avec ordre de mission. Et dès l'instant où nos données ont été transmises à New York, nous avons perdu les traces. Voilà le problème.
Mamadi Kondé, l'ambassadeur de Guinée à Washington, au micro de Georges Léonard Sagnot.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Semaine décisive au Burkina Faso avec d'importantes décisions sur des dossiers tels que l'assassinat du président Thomas Sankara en octobre 1987 ou encore le putsch du 16 septembre dernier. Timothée Donangmaye a joint à Ouagadougou notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Dès ce mardi matin, un moment très attendu, ce sera la remise au tribunal militaire des résultats de l'expertise sur les supposés restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune qui ont été assassinés le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Et vous savez que depuis la chute de ce dernier en octobre 2014, ce dossier Sankara, qui n'a jamais vraiment avancé depuis des années, a été remis en selle par le gouvernement de la transition, issu donc de cette insurrection. Des avocats de la famille Sankara, Maître Sankara notamment et ses collègues, seront au tribunal militaire ce mardi dès 9h donc, pour recevoir ce dossier Thomas Sankara. Et vous avez aussi, parlant toujours de Thomas Sankara, la date du 15 octobre, la date de commémoration donc, de son assassinat. Ce sera donc le 28e anniversaire. Et cette fois-ci, pour une première fois, la cérémonie aura lieu non pas au cimetière de Dagnoé, parce que les proches de Sankara et tous ses amis disent que comme ses restes ont été déterrés il y a quelques mois, il n'y a plus rien au cimetière. Ce n'est pas la peine de se réunir là-bas. Ils vont se retrouver plutôt à la place des martyrs à Tampoui, qui est un quartier au nord-ouest de Ouagadougou. Et puis, une autre date à retenir, sont cette question des élections. Et cette semaine, on s'attend à ce que le gouvernement de la transition fixe donc les dates des élections générales, municipales et législatives. Vous savez qu'il devrait avoir lieu ce dimanche passé, 11 octobre, à cause du putsch donc, du général Dengiré qui a eu lieu le 16 septembre dernier. Ces élections ont été reportées. On n'a pas encore une date fixe.
À propos du putsch du 16 septembre, une commission d'enquête a été mise en place lundi à Ouaga.
Oui, une commission d'enquête a été installée. Au même moment aussi, la justice militaire a installé son nouveau directeur, le colonel Sita Sangaré, qui va donc piloter non seulement l'affaire du putsch, mais aussi le dossier Thomas Sankara, parce que toutes ces affaires-là impliquent des militaires et donc ça a été confié au tribunal militaire. Ce qu'il faut ajouter, c'est que toutes ces affaires se déroulent dans un contexte d'insécurité générale dans le pays. Je vous rappelle qu'il y a eu 5 morts à Samorogouan, dans l'extrême ouest du pays, avec cette attaque de la gendarmerie où il y a eu 3 gendarmes morts et 2 autres personnes. Et nous avons appris que depuis samedi, il y a 7 Touaregs qui se rendaient vers la Côte d'Ivoire, qui ont été arrêtés à bord d'un bus. Et jusque-là, on apprend qu'ils sont toujours détenus pour interrogation, vérification approfondie. Ce sont les termes des Pandore, donc de leur identité, ils n'ont pas encore été relâchés. Donc il y a ce climat un peu d'inquiétude avec ces attaques qui s'ajoutent à d'autres qui se sont déroulées il y a plusieurs semaines et plusieurs mois.
Notre envoyé spécial Bagassi Koura à Ouagadougou au micro de Timothée Donangmaye.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Direction la Sicile pour un nouveau numéro de notre série consacrée aux migrants africains en Europe. L'île italienne se reçoit quotidiennement des centaines de personnes sauvées des eaux par les bateaux de patrouille européens. L'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault, nous explique ce matin les différentes routes empruntées par les migrants en Afrique.
Un nouveau jour se lève sur la Sicile, un nouveau bateau accoste dans l'un des ports de l'île. Cette fois, la scène se déroule dans le sud, à Pozzallo. Le Rio Segura, bateau de la Guardia Civile espagnole, débarque avec à son bord plus de 500 migrants, dont près de 90 Somaliens. Par crainte des maladies, tous les personnels en contact avec les migrants portent des masques de protection, voire des combinaisons. Au 9 octobre 2015, selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations, 3092 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée, dont 2803 vers l'Italie. Cela en fait la portion la plus meurtrière de cette mer qui sépare le vieux continent de l'Afrique. Selon Federico Soda, coordinateur de l'OIM pour la Méditerranée à Rome, environ 90% des personnes qui arrivent par la mer en Italie partent de Libye.
Je crois qu'en Libye, le trafic est assez bien organisé pour pouvoir faire passer, venir autant de gens et les faire prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée. Et ça génère beaucoup d'argent puisque la traversée peut coûter plusieurs milliers de dollars.
Après avoir rencontré sur le terrain des migrants, des humanitaires et différents employés d'agences européennes, VOA Afrique a pu déterminer les deux corridors migratoires qu'empruntent les migrants africains dans leur quête de l'Europe. Une route ouest-africaine partant du Sénégal, de la Gambie ou du Nigeria. Les candidats au voyage rallient ensuite Bamako, Gao, Niamey puis Agadez. Ils traversent ensuite la frontière libyenne et peuvent mettre des semaines avant de rejoindre Tripoli pour embarquer sur des bateaux à destination de la Sicile. Samatunkara est un Malien de 23 ans. Il est arrivé il y a quelques semaines en Italie. Il nous dévoile son itinéraire.
Moi, j'ai quitté Bamako Leni le 13 octobre 2014 pour venir à Gao. J'ai quitté Gao maintenant, venir en Algérie. Le premier ville, Borges. On a fait Borges. Après Borges, on a passé Tamarassat. On n'a pas arrêté là-bas. Bon, on a fait 5 mois à Gardaïa. On a quitté Gardaïa pour venir à Libye, en Tripoli.
L'autre route migratoire part d'Asmara ou Addis Abeba. Ceux qui réussissent à passer la frontière soudanaise remontent jusqu'à Khartoum. Ils prennent alors la route périlleuse du Sahara via le Tchad ou l'Égypte pour gagner ensuite le désert libyen. Tripoli est là aussi la destination finale avant de s'entasser par centaines dans des embarcations pour traverser la Méditerranée. Depuis la Sicile en Italie, Nicolas Pino, VOA Afrique.
Le prix Nobel d'économie a été attribué cette année à Angus Deaton pour son travail sur la santé et le développement économique. Francesco Saraceno, professeur d'économie à Sciences Po Paris, parle du lauréat et de son travail au micro d'Isha Sarai.
Le travail qu'Angus Deaton a sur la consommation est tellement important que maintenant il est internalisé par l'analyse économique partout. Donc on ne sait même pas que ce qu'on fait est dû à lui. Et en particulier, ce que lui il a fait, il a réussi à réconcilier la théorie des ménages des consommateurs rationnels avec l'évidence empirique. Et c'est-à-dire qu'avant lui, il y avait une théorie qui disait qu'à partir du postulat des rationalités des ménages déduisait des conséquences en termes de consommation. Mais après, l'évidence empirique n'arrivait pas à retrouver ces résultats de la théorie. Et lui, sa contribution majeure dans les années 80 a été démontrée qu'en fait, si on part pas de la consommation agrégée, mais de la consommation des ménages individuels, donc de la dimension microéconomique, on peut retrouver cette rationalité que l'analyse agrégée ne permet pas d'obtenir. Et donc, en faisant comme ça, il a légitimé la théorie de la consommation qu'on avait utilisée pendant un siècle sans vraie fondation empirique. Donc, c'est un travail très important. Si aujourd'hui, on peut dire, avec des consommateurs rationnels, une impôt sur, par exemple, une augmentation de la TVA aura un effet tel et tel, c'est grâce au travail d'Angus Deaton.
Comment est-ce que cette théorie va changer ce que vous faites maintenant comme professeur, comme économiste?
Ce n'est pas le prix Nobel qui le change, c'est son travail qui l'a déjà changé. Il y a toute l'économie du bien-être, la so-called welfare economics, elle se base sur l'idée que la politique économique doit maximiser le bien-être d'un ménage représentatif. Et tous les livres d'économie publique qui ont été écrits dans les 20 dernières années, et en fait sont fondés sur ce concept qui est un concept qu'on doit à lui. Donc ça a changé radicalement notre travail. Sinon, on serait obligé d'avoir des analyses des politiques économiques basées sur des ménages qui ne sont pas rationnels, qui se comportent chacun d'une façon différente, etc. Et ça serait beaucoup plus difficile d'avoir des analyses, surtout en termes de bien-être comparatif. Et en plus, vous parliez de l'économie du développement, et là encore, la contribution est similaire et était assez radicale. C'est-à-dire, avant lui, l'économie du développement était un sujet pratiquement exclusivement théorique, et c'est grâce au travail d'Angus Deaton qu'on a introduit l'analyse des données des ménages, les enquêtes, etc. Et donc on a rebasé tous les résultats de la théorie du développement économique sur une évidence empirique basée sur l'unité.
Le professeur Francesco Saraceno sur l'importance de la contribution d'Angus Deaton. Il était au micro d'Isha Sarai. C'était Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Merci pour votre attention. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Et un grand merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.